Aujourd'hui, ce troisième dimanche du temps ordinaire est consacré officiellement, liturgiquement, s'entend bien sûr, à la parole de Dieu. Les prêtres doivent parler de la parole de Dieu selon la recommandation du pape François, là, et il y a 3 ans de ça. Il a demandé dans un texte qui s'appelle Aperuitilis, alors c'est le début d'un verset, alors il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures, c'est tiré du récit des pèlerins d'Emmaüs. C'est le thème de la parole de Dieu aujourd'hui. L'évangile et la prédication de Jonas vont bien avec ça. Le pape continuait dans son document à dire « ça doit être un jour solennel ». Et il donne comme exemple le retour d'exil, il y a longtemps de ça évidemment, du peuple juif, et à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont organisé une grande célébration d'une ratification d'alliance avec la lecture de toute la Torah. Une lecture publique que tout le monde a entendue et à l'issue de laquelle ils ont dit « Oui, nous ferons la volonté de Dieu, nous ratifions tous les commandements contenus dans cette loi ». Alors, on va faire ce qu'on peut à la mi-janvier là pour que ce soit un jour solennel. Il sera solennel dans notre cœur ce jour-là, parce que de toute façon, à Notre-Dame du Cross, c'est toujours solennel, la messe dominicale. Et il faut devenir familier de la Bible. Solennel, ça veut dire être participé à la liturgie des anges, avoir cette porte du ciel qui s'ouvre pour nous, et la Bible, vraiment, eh bien, elle nous ouvre cette porte du ciel. D'où le caractère solennel de toutes nos célébrations. Alors le thème, outre la Bible, c'est que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment la lire. Bien, la Bible est au centre, mais on s'aplatit pas devant un livre, on n'en sens pas particulièrement. C'est pas lui qui compte. Ce qui compte, c'est le message qu'il véhicule, et mieux. C'est pas une lettre qui nous rappelle l'histoire ancienne ou présente d'ailleurs. C'est une présence. L'Écriture, la Bible, c'est la présence de Jésus au milieu de nous, au même titre que l'Eucharistie. Ce qui est pratique avec la Bible, c'est qu'on peut l'emporter chez soi. On peut la voir à tout instant dans son cœur, dans sa mémoire. Alors depuis longtemps, les chrétiens, depuis l'Antiquité, ont pratiqué ce qu'on appelle la lectio divina. Alors qu'est-ce que c'est que la lectio divina, la lecture divine? C'est entrer en relation avec ce Christ qui est présent dans sa parole. Et elle se fait donc, au départ c'était intuitif bien sûr, et puis au Moyen-Âge, c'est l'âge où commence le formalisme, on donne des méthodes précises de plus en plus, et là on a un certain Guigues Le Chartreux qui a donné les règles que nous avons encore aujourd'hui de la lectio divina. En 4 étapes donc, dit-il. La première, c'est une lecture attentive du texte, ce que nous faisons. Puis la seconde étape, c'est la méditation. Il faut rechercher la vérité qui est cachée derrière la lettre. Ça veut dire qu'il y a un mystère dans l'écriture, que ce n'est pas simplement un article comme nos articles de journaux ou de sites internet. C'est bien plus profond que ça, parce qu'il y a cette présence de Dieu à l'occasion de l'Écriture. Et donc, il faut rechercher, avoir cet acte de foi. Il y a dans l'Écriture une vérité cachée que je ne connais pas encore, pas assez en tout cas, et à la recherche de laquelle je dois partir. Donc ça, c'est la méditation, ça va au-delà de la lecture. Puis, 3e étape, c'est la prière. Une fois qu'on est entré en relation avec le mystère que l'Écriture nous montre, eh bien, le croyant peut développer sa prière vers Dieu, une louange. il rend grâce à Dieu ou une demande, quelle qu'elle soit, il élève sa prière vers Dieu. Et enfin, la quatrième étape, c'est celle de la contemplation, où l'âme, cette fois-ci, eh bien, écoute la réponse de Dieu. Elle est ravie en Dieu, dit Guigues le Chartreux. Mais une phase passive, donc, c'est la prière personnelle est active, c'est moi qui l'énonce. Là, c'est, je suis passif dans le sens où c'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui me répond. Alors c'est bien beau, cette dernière étape, on comprend tout de suite qu'elle tient uniquement à la bonne volonté de Dieu et que la méthode a de grosses limites. Sous cet angle-là, elle ne peut rien contrôler, bien évidemment. Mais ça, outre cela, disons que les trois premières étapes sont rationnelles. Alors, lecture attentive et la prière, mais la méditation. Comment faire cette méditation? Comment partir à la recherche du sens caché, de la vérité cachée dans les Écritures? Alors ça, il faut remonter au tout début du christianisme pour avoir déjà la solution avec un grand théologien antique du nom d'Origène. Et on est au second siècle de notre ère. Lui distingue les plusieurs sens de l'Écriture. Et vraiment, il a fait école et c'est, comment dire, les lois, entre guillemets, d'exégèse, d'herméneutique, comme on dit, qu'il a dressées, continuent, eh bien, d'être appliquées au long de l'histoire de la lecture de la Bible et de l'Église qui lit la Bible avec vénération. Alors, il y a quatre sens, il nous dit, bon, vous voyez, il y avait quatre étapes pour la Lectio Divina, ben là, il y a quatre sens. Il y a le sens littéral, ce que le texte dit. Ça, il faut déjà le travailler, comprendre les usages de l'époque, par exemple. L'exégèse contemporaine, dite historico-critique, s'attache beaucoup à ça, et même exclusivement à cela. Donc, l'histoire antique, l'histoire ancienne, les langues anciennes, tout ce qui peut aider à comprendre ce sens littéral que nous avons sous les yeux. Bien. Mais ça, on s'est contenté jusque-là de lire le texte, avec attention, mais c'est tout. Puis, il y a le sens spirituel, qui lui-même se décline en trois sens, ou sous-sens, comme vous voulez. En tout cas, là, on part véritablement à la recherche de la vérité cachée dans les Écritures, avec ce sens spirituel. Le sens allégorique, une allégorie, vous voyez, c'est dresser un récit pour parler d'une réalité différente de la lettre du récit. Les paraboles, c'est un exemple typique. Hein. Jésus parlait en paraboles sans arrêt. Un autre exemple, c'est, prenons la traversée de la mer Rouge. Donc les Hébreux s'engagent dans la mer qui est dégagée par Dieu. Les Égyptiens leur courent après, s'engagent eux aussi dans la mer à sec. Les Hébreux arrivent sur l'autre rive, Moïse lâche son bâton et les eaux refluent sur les Égyptiens et ils disparaissent. C'est l'image, ça c'est la lettre, le sens littéral. Le sens allégorique, c'est les Hébreux figurent les croyants, le passage de la mer Rouge figure le baptême, les Égyptiens figurent les démons. Et les démons, par le baptême, eh bien, sont dissous, détruits, et les croyants eh bien, arrivent sur la rive de l'Église, purifiés de leurs péchés. Voilà une lecture allégorique du passage de la mer Rouge, extrêmement traditionnelle. Ensuite, après le sens allégorique, le sens moral. On comprend bien, c'est l'Écriture me dit ce qu'il faut que je fasse. Donc, dans ma vie morale concrète, comment est-ce que je vais mettre en pratique le texte que je suis en train de lire? Pour la mer Rouge, toujours, c'est l'âme quitte l'Égypte, les valeurs de l'Égypte, et donc, il ne faut pas y retourner. Ça a été la tentation des Hébreux au désert, ça. Donc, dans ma vie morale, je vais exclure toutes les valeurs de l'Égypte. dans mon comportement moral. Voilà, une manière simple de décrire le sens moral. Puis enfin, le sens anagogique, le troisième sens, c'est la contemplation. C'est la signification éternelle ou mystique des réalités qui sont vécues dans la foi, qui sont contemplées dans le passage qu'on est en train de lire. C'est, par exemple, la joie qu'on éprouve dans la prière, d'une manière concrète, est une figure de la béatitude éternelle qui nous attend au ciel. C'est voir aussi, évidemment, l'éternité derrière le passager à travers des personnages qui figurent le Christ par anticipation. Donc le sens anagogique, c'est aussi le sens eschatologique, la fin des temps, la fin de l'histoire et le jugement final. Je peux appliquer, là encore, le passage de la mer Rouge à un sens contemplatif, anagogique, eschatologique plus précisément, en disant, au jugement dernier, Dieu, de même que Dieu a dit qu'il séparerait les boucs des brebis, eh bien, comme au passage de la mer Rouge, Jésus introduit ses fidèles au paradis, tandis que les autres vont en enfer dans les abîmes de la mer, car la mer se referme sur eux. Voilà un exemple. Donc, il faut rechercher ce qui est caché dans l'Écriture, et c'est très important. Vous voyez, on vit dans un monde qui, bien sûr, est trop positiviste. Même dans l'Église, on a peur de regarder l'éternité, tout ce qui ne peut pas se vérifier. La théologie biblique a subi une crise depuis les années 20, au siècle dernier, vous vous rendez compte. C'est depuis une centaine d'années. Donc, maintenant, la théologie biblique, ça se confond avec l'exégèse. Ça consiste simplement à faire de l'histoire ancienne, des langues anciennes, et tout ça pour dire que, ah bah oui, ce que j'ai lu, c'est bien ce que j'ai lu. Jésus se rendit en Galilée. Donc on sait, on apprend ce qu'est la Galilée à l'époque, qui la gouverne, etc. Alors au départ, peut-être qu'on ne le savait pas, mais on constate à la fin, doctement, qu'on avait effectivement compris que ce qu'on avait lu, c'était bien ce qu'il fallait lire. Donc on fait de longues études pour aboutir à ce résultat glorieux. Mais ce que Jésus nous demande, c'est d'aller plus loin que cela. Jésus nous demande de scruter amoureusement les Écritures, parce que les Écritures, ce n'est pas un livre antique comme les autres. Ce livre-là est habité par Dieu. Et c'est amoureusement qu'on doit rechercher ce que Dieu nous dit, nous livre dans ses Écritures, qui sont éternelles comme lui-même est éternel, infinies comme lui-même est infini. À savoir que les Écritures, comme la manne, peuvent se prêter au goût et aux qualités de chacun. Elles sont inépuisables. Nous pouvons toujours trouver, pour les accorder aux circonstances de notre vie, eh bien, la solution qui convient. Elles peuvent nourrir tous les croyants depuis le commencement du christianisme jusqu'à la fin du monde. Ayons cette foi. L'Écriture veut nous, Dieu veut nous parler à travers l'Écriture. Alors scrutons-la selon les sens, les divers sens traditionnellement énoncés, mais sans nous arrêter en cours de chemin, allons vraiment exigeons de l'Esprit Saint, eh bien, qu'il nous livre le sens des Écritures, même leur sens caché.